Ah, quel bonheur de voir la tête de Ségolène Royal, quel bonheur d'imaginer celle de Philippe Val, quelle joie de penser à l'ambiance chez les Duhamel. Allez hop, champagne en voyant la mine de Claire Chazal. Et une bière pour le rictus coincé de Jacques Lang, un pétard au gouda pour rigoler de la tronche navrée de François Hollande, un Ricard à la santé de Strauss-Kahn, un autre en voyant Serge Julie, et encore un autre pour Célière. Et puis un jerrycan de rhum en pensant au journaliste Wiwist de Radio France, un camion-citerne de Beaujolais en se rappelant les meilleures histoires de Jean-Pierre Raffarin, un space cake à la mémoire de Daniel Cohn-Bendit, et puis un doigt de Porto en repensant au discours de Simone Veil, et pour finir, un mon chéri à la gloire de Valéry Giscard d'Estaing.
Malaise à gagner l'ensemble du salariat.
Voilà, 22 heures, c'est le nom, et le nom très largement. Voilà, 25 heures, c'est le nom des électeurs d'après la première.
Oui, donc comme vous l'avez deviné aujourd'hui, donc on va revenir sur ce moment jouissif de dimanche soir, donc le moment du nom. Alors pourquoi me direz-vous revenir là-dessus alors qu'on en a déjà beaucoup parlé dans les médias? Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, faut pas retenir sa joie. On a quand même pas trop souvent l'occasion de faire la fête et de s'amuser en politique. Donc, autant revenir là-dessus. Et puis, surtout, deuxièmement, ce qu'on peut constater quand même dans les attendus sur le scrutin, c'est que les propositions qui émanent de la presse traditionnelle pour expliquer le vote non, elles sont assez classiques. C'est les pauvres ont pas trop compris ce qui se passait. Ils ont pas trop compris, il y a eu un vote de rejet, et la politique, ça se passe comme ça, dans le secret de l'isoloir, isolé. Alors ici, ce qu'on voudrait faire, c'est montrer qu'en fait, cette campagne, elle est pas venue comme ça de nulle part. Elle a été aussi traversée par des comités locaux qui travaillent de longue date pour expliquer le traité constitutionnel, les enjeux, pour discuter avec la population. Et donc aujourd'hui, on a choisi de faire intervenir dans les millions trois qui ont participé activement à des comités locaux. Donc d'une part Jacques qui a milité dans un comité du Val-de-Marne et qui par ailleurs est membre également de la CA de Attac, donc il pourra revenir sur cette expérience longue de Attac dans le comité du nom. Ensuite il y a également Pascal qui est membre du comité du 20e pour le nom de gauche, qui pourra également revenir sur sa participation au comité. Et enfin Cédric qui a surtout participé à l'appel des 200 jeunes.
S'est démocratiquement exprimé. Vous avez majoritairement rejeté la Constitution européenne. C'est votre décision souveraine et j'en prends acte.
Ex-députée européenne qui s'adresse à nous ce soir et qui nous dit bravo à vous, tous les courageux, bravo le peuple, Aline Payet.
Alors voilà quelques échos de la soirée de dimanche soir. Alors on attendait à ce que Jacques Chirac nous annonce une dissolution, une démission et tout, rien. Voilà. Et puis on a entendu ensuite un autre écho, on en entendra d'autres extraits ce soir. C'était à la Bastille quand les résultats ont été annoncés, l'ensemble des partisans, des militants du nom de gauche avaient à la Bastille, puisqu'il paraît que toutes les grandes victoires de la gauche se fêtent à la Bastille. Donc malgré la pluie battante et la qualité très active de la musique qui y était jouée, on était assez nombreux dimanche place de la Bastille. Alors aujourd'hui, on a voulu dans cette émission revenir un petit peu à chaud, essayer d'avoir quelques éléments de compréhension de ce qu'il a pu se passer pendant cette campagne, parce que nous, de là où on était, on a eu l'impression qu'il y a eu une réelle dynamique et une dynamique qui dépasse. On a eu l'impression que ça dépassait très largement d'autres mobilisations pour des droits sociaux, pour des choses comme ça qui ont eu lieu récemment. Et donc on a invité trois camarades qui ont été particulièrement mobilisés pendant cette campagne, afin qu'ils nous expliquent un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant cette campagne, comment ça s'est mis en marche, comment ça s'est développé. Alors je sais pas, Cédric, comment toi tu vois ça?
Eh ben oui, donc on peut peut-être commencer par le début. Donc en vous demandant, qu'est-ce qui a motivé au départ donc votre action et votre investissement donc dans ces groupes locaux, et donc comme ça vous pourriez présenter rapidement les groupes auxquels vous avez participé. Alors je ne sais pas qui veut commencer, peut-être
je vais Pascal. Commencer, c'est Pascal. Je suis au comité du 20e arrondissement pour le nom de gauche. Quoi. Et la motivation, c'est un enjeu quand même majeur. Alors, est-ce une constitution, un traité, enfin, cette espèce de monstre juridique nous a posé beaucoup de questions. Ça nous a permis aussi de passer beaucoup de temps à le lire, à l'éplucher. Et puis, plus on a avancé, plus la détermination s'est forgée, quoi.
Cédric?
Oui, moi j'appartiens à un collectif, le collectif Vamos, qui est un collectif altermondialiste. Et du coup, dans la dynamique des différents contre-sommets, forums sociaux, s'est imposé comme une évidence la participation à cette campagne pour le nom de gauche au référendum. L'idée était que, auparavant, les contre-sommets, les forums sociaux étaient des espaces où on pouvait beaucoup discuter, on pouvait beaucoup marquer des points idéologiquement, etc. Mais on ne pouvait pas décider. Et là, on avait les moyens, on avait un espace pour peser sur la décision et envoyer un message très clair. Et du coup, l'idée était d'avancer, alors avec les particularités qu'on avait, qui est celle d'un collectif qui n'est pas sur une base géographique stricte, qui est plus sur des modes d'action, des rendez-vous courts, etc. Et du coup, on a mis un peu à la disposition de la mobilisation ce qu'on savait faire, c'est-à-dire des affiches, un site internet bien foutu avec des infos, plein de liens, et également la Batucada qui a été participé à plusieurs actions et qui était là également à 22h à la Bastille. Donc voilà, mettre un peu ces outils au service de la mobilisation et contribuer chichement de cette manière à la réussite.
Jacques.
Oui, j'appartiens au collectif du Val-de-Marne et à TAC, donc qui a participé, dont beaucoup de militants ont participé à la campagne. Alors je dirais comment la campagne s'est organisée. Le plus simple, c'est peut-être de citer quelqu'un qu'on ne peut pas soupçonner de nous être favorable, qui s'appelle Laurent Geoffrin, qui est directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, et qui a dit, et la campagne médiatique classique, dans les médias classiques, à la radio, à la télévision, tout ça a glissé comme de l'eau sur les plumes d'un canard, parce que l'argumentation était déjà très forte, très imprimée dans l'esprit des gens. Après, c'était une course de vitesse, comme le lièvre et la tortue. La tortue était partie un an en avant, et puis le lièvre s'est réveillé quand il a vu le premier sondage, quand il a vu le non-gagnant. Alors je crois que c'est un petit peu, ça a été un petit peu le nœud de la campagne, c'est-à-dire que beaucoup, et en particulier la plupart des comités locaux d'attaque, sont partis en fait très en amont, c'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'on nous occupons de la mondialisation, des rapports entre la mondialisation et la vie quotidienne des gens. Et en fait, nous avons commencé à travailler sur l'Europe, il y a non pas en décembre, non pas en janvier, mais on travaille sur l'Europe depuis pratiquement la création d'ATTAC, puisque nous parlons des relations entre l'Union européenne et l'OMC. Et je dirais que l'idée de base, c'est justement d'arriver à faire prendre conscience aux gens que leur vie quotidienne dépend de rapports de force qui se situent à un niveau mondial et que c'est peut-être là qu'ils ont une chance d'agir. Alors pour moi, quel a été en fait le succès? Je sais que ça n'a pas été un coup de tonnerre dans un ciel bleu, c'est-à-dire que le succès de la campagne, je pense, c'est d'avoir réussi à persuader les gens qu'ils pouvaient se déplacer. Et donc le succès majeur, pour moi, c'est 70% de participation. À partir du moment où la participation a eu lieu, les résultats étaient relativement courus, parce que si on consulte des sondages, pour en revenir dessus, si on consulte des sondages, on se rend compte qu'effectivement, l'inquiétude était là bien avant. Simplement, les élections européennes ont toujours été marquées par une désaffection complète, parce que l'une des victoires du néolibéralisme, c'est de faire croire aux gens que ça ne sert à rien, que l'économie a des lois, comme les lois de la physique, etc.
Alors, juste pour... Moi, ça m'intéresse, c'est quelque chose que je n'avais pas vu. Je voudrais que tu dises deux mots quand même sur la campagne avant qu'elle soit enclenchée dans les médias. On va les qualifier, c'est les médias bourgeois. Avant qu'elle soit enclenchée pour le oui dans ces médias-là, il y avait déjà... quand est-ce que vos militants se sont mis en œuvre? C'était bien en amont, vous aussi, Attaque? Peut-être c'est une des dimensions aussi qui peut expliquer ça, ou pas?
Je dirais qu'Attaque se définit comme une association d'éducation populaire tournée vers l'action. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que action, ça veut dire que c'est pas un cercle de réflexion. Elle se distingue d'un cercle de réflexion. Éducation populaire, ça veut dire que nous essayons de mener un travail radical, radical au sens de racine. Et donc on n'est ni dans le court terme, ni dans le local. C'est-à-dire on n'est pas, on se place d'entrée de jeu dans un contexte qui est un contexte global. Alors, quand je dis très en amont, effectivement, les premières actions d'Attaque, on en a parlé juste à l'instant, c'est effectivement, on a participé à tous les forums sociaux, bien évidemment. On a participé à toutes les manifestations associées au G8, enfin, aux réunions du G8, qui ne peut plus se réunir actuellement sans qu'il déplace des foules qui lui sont hostiles. Donc ça, c'est, je dirais, un travail qui a été un travail terrain permanent depuis la création de l'association en 98. Ensuite, sur l'Europe plus spécifiquement, on est depuis plus d'un an, depuis deux ans, on travaille avec, sur le traité, depuis le traité, donc le premier projet de traité est sorti en 2003. Et je dirais que dès 2003, nous avons commencé à sortir des premières analyses sur le traité. Nous avons fait des formations de militants, c'est-à-dire que les militants d'Attaque se sont effectivement formés de façon extrêmement aride, extrêmement sérieuse. Les gens ont travaillé sur le traité. Et donc, c'est bien ce qu'explique Laurent Geoffrin, c'est-à-dire quand les tenants du oui se sont retrouvés à faire, par exemple, des meetings contradictoires, des choses comme ça, ils se sont retrouvés face à des militants d'Attaque qui étaient capables de leur tenir la dragée haute et donc qui les ont obligés à être sur le terrain du texte, ce à quoi ils ne s'attendaient absolument pas. On va revenir là aussi sur les élections espagnoles. Enfin, quand on voit les sondages sur la connaissance qu'ont les Espagnols du traité, c'est à hurler de rire. La majorité, quand je dis la majorité, c'est les trois quarts des Espagnols, d'après un sondage Eurobaromètre, étaient persuadés que le président du Conseil européen, donc le conseil qui réunit les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne, était élu au suffrage universel. Bon, ça donne quand même une image de la connaissance qu'avaient les Espagnols du traité et des fonctionnements de l'Europe. Alors ça, c'est, je dirais qu'il y a eu un premier travail, qui est donc un travail côté éducation populaire. Ensuite, on a un travail, je dirais, qui est un travail action, c'est-à-dire le travail qui est lié à l'autonomie des comités locaux. C'est-à-dire que Attaque comporte, c'est une association un peu compliquée, puisqu'on a à la fois des membres fondateurs qui sont des organisations, des syndicats, des journaux, et on a des comités. Et ces comités locaux, ce sont massivement emparés de la campagne. Et donc, ça a donné lieu, je dirais, à une mobilisation de toute l'association et un réseau de communication efficace. Enfin, si je résume rapidement, un réseau de communication efficace. Enfin, on se rend mémoire une série de débats contradictoires qu'a voulu faire notre grand copain, qui est d'ailleurs adhérent d'Attaque, théoriquement, qui est Alain Lipietz. Alain Lipietz, à un moment, se déplaçait. Donc, il était à Toulouse. Ensuite, il est venu dans la banlieue sud. Ensuite, il est venu à Paris. Et il était suivi à la trace par des militants d'Attaque qui se passaient par Internet le contenu de son intervention, c'est-à-dire quand il arrivait pour un débat contradictoire, il avait en face de lui des gens qui savaient ce qu'il allait dire et donc qui avaient eu le temps de préparer des réponses. Et des réponses argumentées, bien sûr.
À l'attaque.
Alors, Cédric.
Oui, effectivement, cette campagne, elle part sur une vague de fond qui est une bonne connaissance de la mondialisation néolibérale et en quoi cette constitution est une entrée, un pas de plus, une tentative de légitimation, en fait, de la mondialisation néolibérale. Et effectivement, tout le travail fait par Attaque, tout le travail fait lors des forums sociaux, tout le travail fait lors des contre-sommets, etc., avec une véritable génération militante qui était prête à répondre sur le fond et qui était disposée. Mais ce n'est pas tout. L'autre élément moteur dans cette campagne a été autour de l'appel des 200, une espèce d'évidence pour tous ceux qui étaient engagés, pas forcément dans les luttes de l'altermondialisation, mais dans des luttes locales, dans des luttes syndicales, etc., dans des militants politiques également, de se retrouver dans des cadres. Et l'appel des 200, qui a été lancé notamment à l'initiative de la Fondation Copernic, a servi de cadre dont tout le monde s'est saisi très rapidement. Et c'est ça qui a donné la naissance à ces comités. Ces comités sont construits très rapidement jusqu'à arriver à presque un millier de comités à la fin de la campagne, ce qui est quelque chose d'absolument considérable, qui représente des dizaines de milliers de personnes engagées dans un quotidien. Et là, il y a une force militante qui attendait le moment pour se retrouver et qui a pu se retrouver. Parce que lorsqu'on est sur les luttes altermondialistes, malgré tout, c'est des luttes qui sont un peu difficiles d'accès. Il faut se déplacer, il faut avoir de la disponibilité du temps, etc. Là, on était local, on était sur place. Et en même temps, lorsqu'on est enfermé dans des luttes locales, immédiates, etc., on a également du mal à se déplacer, mais là, on a pu parler global à l'occasion de ce traité. Et cette conjonction d'une bonne connaissance des thématiques et travaillée depuis maintenant des années et des années, et de luttes sociales qui sont récurrentes et qui sont persistantes depuis 1995, lutte sociale, lutte locale, a permis au cadre de l'appel des 200 d'être vraiment le lieu de convergence de toutes ces forces et nous a permis d'arriver à ce succès militant qui a contribué bien évidemment à déstabiliser la campagne du oui qui s'imposait comme naturel. Le oui devait être quelque chose de naturel, ben, pas du tout. On a pu discuter de quoi il s'agissait de décider et d'imposer une autre décision.
Le malaise alors, a gagné.
Voilà, 22 heures, c'est le non et le non très largement. Voilà, 55 heures, c'est le non-son des électeurs.
Mais qu'est-ce qu'un APMDB veut nous expliquer en quoi il est encore un syndicat qui peut venir discuter? Parce que nous, on demande. Un syndicat, normalement, ça lutte contre le patronat pour défendre les employés. Ça va pas boire le thé et manger des petits fours avec le patronat, c'est pas ça un syndicat. Alors, je vois que vous vous intéressez à nous puisque vous sortez un peu aux fenêtres. Si quelqu'un d'entre vous a envie de venir nous expliquer en quoi vous êtes en syndicat, ça nous intéresse.
Alors, Pascal, tu voulais nous dire deux mots sur un peu comment vous, toi, tu fais partie du collectif 20e pour un oui de gauche, si je me souviens bien, comment vous, ça s'est enclenché pour un non de gauche.
Voilà, oui, je préfère quand même. Alors, nous, c'est pas que il y a des gens qui sont militants, engagés syndicalement ou voire dans certains partis, et puis il y a des gens qui n'ont aucune attache de parti ou syndicale. C'est des gens qui spontanément se sont engagés dans cette campagne. C'est parti du collectif du 20e des défenses des services publics et on n'était pas très nombreux en fait, on était une petite quinzaine quoi et puis on a fait des réunions publiques, il y a eu des invitations comme Michel Soudet on a réussi à faire déplacer des gens parce que les gens étaient quand même très friands d'informations. Qu'est-ce que c'est que ce traité? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous engage. Et bien, ils sont venus, et même à notre surprise, parce que c'est une véritable aventure qu'on a vécue. Puis, on verra les lendemains même qu'on va lui donner. Et les gens sont venus de plus en plus nombreux. Et d'ailleurs, même il y a des moments, on se demandait où est-ce qu'on allait pouvoir faire nos réunions, quoi. On se faisait dépasser par le nombre, quoi. Et bien, c'est ce côté-là où il n'y avait pas qu'un noyau, un peu de militants, d'associations qui sont dans des actions depuis très longtemps. Il y a beaucoup de gens qui se sont investis comme ça, en fonction de leurs moyens. Dans cette campagne et qui ont vraiment eu, je pense, une démarche citoyenne engagée, tout simplement.
Alors justement, sur l'investissement, parce qu'au cœur de tout ça, il y avait ce traité, ce projet de traité, et il y avait un texte, alors moi, qui m'a paru, mais absolument illisible. Quels ont été les enjeux de s'emparer de ce texte? Enfin, fallait lire, fallait le comprendre. Qu'est-ce qui se passe autour de ça?
Oui, c'est déjà la difficulté du texte pose question. Comment des pouvoirs peuvent s'adresser à un citoyen ordinaire avec un texte pareil? C'est quand même, je dirais, c'est assez hallucinant.
Jacques.
Je dirais que le fait que le texte soit libre, schématiquement, le rejet du traité, c'est quoi? C'est une victoire de la démocratie, une victoire sociale. Enfin, c'est lié aux luttes sociales. Et c'est, je dirais, une victoire pour l'Europe, quelque part. Bon, alors, l'opacité du texte, ben, je dirais que l'opacité du texte, elle a servi. Bon, si je prends un exemple, c'est celui des Verts que Renaud citait tout à l'heure à tort, parce que la grande majorité des Verts a voté non. Donc, je pense que Renaud se trompe dans ce qu'il dit, puisque 61% des gens qui sont sympathisants des Verts ont voté non au traité constitutionnel. Si on prend les Verts se sont réfugiés dans une logique complètement schizophrène, c'est-à-dire face à la complexité du texte, ils ont lancé simultanément une campagne pour le oui et une campagne à la révision du traité. C'est-à-dire que je crois que l'opacité du texte a beaucoup joué contre le texte lui-même. C'est-à-dire quand on présente un objet que l'on baptise constitution, ce texte doit évidemment être compréhensible par tout le monde. Et je crois que je pense que tous les gens qui étaient dans les collectifs l'ont constaté. Ça a été l'une des premières reproches des gens en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc où pour arriver à lire un article, il faut en lire 25 autres avec des renvois, des choses et des machins. On finit par ne plus savoir du tout quelle est la réalité des choses. Il faut être, je sais pas, docteur en droit constitutionnel pour arriver à y comprendre quelque chose. Donc je crois que ça a été une des dimensions. Enfin, il y a eu, je pense, dans l'opposition au traité, il y a eu une dimension, je dirais, qui est sociale et qui est parfaitement annoncée par un certain nombre de sondages. Enfin, quand on regarde les préoccupations des Européens, on se rend compte que la dimension sociale est évidente et que le deuxième objectif de l'Union qui est annoncé dans le traité, à savoir que la concurrence libre et non faussée, ne répond absolument pas aux attentes des citoyens européens sur la question. Mais l'opacité du texte, je pense, a beaucoup aidé les partisans du non.
Alors juste pour dire, moi j'ai été amené à voir la Constitution française, je m'étais jamais pensé, en fait il y a je crois 48 articles, et c'est une espèce de déclaration très limpide, très 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 facile à lire.
Oui, tout à fait.
Et la comparaison entre les deux textes était incroyable, on n'avait pas l'impression que ça faisait partie de la même catégorie d'un point de vue législatif.
Oui, alors c'est ce qu'a fait dire après à un certain nombre de partisans du oui de gauche que oui, mais finalement, il ne faut pas tout mélanger. Ce texte n'est pas une constitution, c'est un traité, parce que les traités ont toujours été ça. Bon, ça a été évidemment l'argument qui a été employé par les copains de Hollande, entre autres, qui est de dire oui, non, mais vous inquiétez pas. Enfin, bon, ils ont quand même tort, parce que le titre même du TCE, comme son nom l'indique, c'est traité constitutionnel européen. Bon. C'est-à-dire que c'est un peu se moquer du monde de dire finalement c'est pas une constitution. Enfin, après tout le battage qu'a fait la convention Giscard autour du fait qu'il allait construire une constitution, c'était un retournement de veste assez surprenant de voir qu'on a essayé de nous servir le fait que c'était finalement un traité ordinaire.
Attends, il y avait Cédric qui voulait intervenir.
Oui, juste sur comment on a fait pour s'en saisir ce texte qui est extrêmement complexe. Parce qu'effectivement, il y avait sa complexité qui faisait que, a priori, il y avait un point négatif, comme ça vient d'être expliqué, mais il y avait quand même la volonté de savoir ce qu'il y avait dedans. Il y a eu un peu deux temps, à mon avis. Et le premier temps, c'est un temps très intéressant parce que c'est un temps où l'expertise, qui est d'habitude celle des médias, celle qu'on lit dans les journaux, etc., eh ben, a volé en éclats. C'est pas cette experte qui a valu. C'est l'expertise militante qui a valu. L'expertise militante qui a été le fruit d'une formidable mise en commun, un espèce de pot commun. Et chacun allait piocher qui, dans l'édition spéciale de l'UMA, avec le commentaire de juristes, qui, dans les argumentaires préparés par Attac, qui, sur Internet, le texte de Chouard, etc., etc. Donc, grâce notamment à Internet et la toile, on a bien vu que cette expertise qui était capturée par en haut, eh ben, elle était devenue beaucoup plus accessible et qu'on a pu rentrer dans les détails de ce texte. On est d'abord rentré dans ce texte par des détails. On a d'abord été choqué par des détails. Le nombre de fois où le terme concurrence libre et parfaite est cité, les détails sur la possibilité d'utiliser la peine de mort dans le cadre d'émeutes, les détails sur l'Europe forteresse, les détails sur libre circulation des capitaux dans l'Union et en dehors de l'Union, qui empêche toute forme de taxation, etc. etc. Donc ces détails ont été les points d'entrée dans le texte qui nous ont choqués et qui ont permis de convaincre dans un premier temps. Mais ça n'a pas suffi. Il y a eu un deuxième temps où le débat avançant, les choses se clarifiant, on a pu avoir une lecture plus globale du texte. Et il a été relativement facile de faire comprendre et d'échanger et de se rendre compte ensemble que ce texte était en fait quelques amendements sur l'organisation de l'Europe, quelque chose qui ne sont pas si substantiels que ça, une charte des droits fondamentaux qui non seulement n'avance presque pas, mais en plus n'a aucun caractère contraignant, et effectivement une tentative de légitimer la construction libérale de l'Europe sur laquelle on n'avait pas eu l'occasion de se présenter prononcer à part dans le cadre de Maastricht. Donc il y avait une série de traités qui avaient été adoptés sur lesquels on n'avait pas pu se prononcer. Et on se rendait compte qu'en fait, ce qu'on nous mettait sous les yeux, c'était pas vraiment une constitution pour organiser, pour changer l'Europe. C'était on nous demandait de voter et de légitimer ce qui avait été fait sans notre avis. On nous demandait de dire, bah voilà, on entérine le truc. Et cette lecture-là, elle est arrivée seulement sur la fin de la campagne, mais elle est devenue très claire. Que le but du jeu, c'était d'entériner une construction néolibérale de l'Europe sur laquelle on n'avait pas eu le droit de se prononcer et que là, on devait la renforcer, la légitimer, la stabiliser. Et c'est ce rejet-là, c'est ça, le refus qui a été fait, c'est ce refus-là. C'est pas un refus de l'Europe, c'est pas un refus même de tel ou tel point, finalement. C'est bien la logique d'ensemble qui a été rejetée et qui est remise sur la table, bah, l'idée de la construction européenne sur laquelle il faudra avancer et dans les mois et les années qui viennent, notamment à partir du réseau des forums sociaux qu'on a pu construire.
Cette victoire est avant tout celle des ouvriers, des employés, des jeunes, des sans-emploi. Des hommes et des femmes, des militantes et des militants français et étrangers qui ont fait un travail remarquable pour permettre à notre peuple de se forger son opinion. Ces femmes et ces hommes se sont emparés du contenu du réel du texte qui leur était soumis. Et elles se sont ainsi rassemblées juste dans les urnes pour rejeter cette camisole libérale.
Voilà, discours de Marie-Georges Buffet, secrétaire générale du... Oui, on est secrétaire général quand on est chef du communiste. Le soir même de l'élection, dimanche, on reviendra peut-être tout à l'heure sur la place et le rôle joué par le Parti communiste. Mais avant, Cédric, tu voulais revenir sur un point.
Oui, bon, toujours dans le même registre. Donc Jacques, tu disais l'opacité du texte a été favorable pour le mouvement du non au départ. Alors c'est sûrement probable, mais si on voyait bien le piège dressé par cette opacité, dans la mesure où dans les médias traditionnels, en particulier télévisés, les débats portaient sur des conflits d'expertise et de compétences, c'est-à-dire, je parle pour le oui de gauche et le non de gauche, je parle pas des autres évidemment, mais pour le oui du Parti Socialiste et le non de gauche, les débats portaient souvent sur des conflits de compétences sur la lecture d'un article, et le même article était vu de manière différente pour le même but. Et du coup, est-ce que ça n'a pas aussi une difficulté à faire valoir des vrais débats idéologiques derrière les articles au-delà de la simple lecture? Est-ce que ça va dériver vers du libéralisme ou une amélioration de l'existant, quoi? C'est-à-dire, jamais Hollande s'est opposé a repris le terme d'une Europe libérale, par exemple. Il n'a jamais défendu cette idée-là, quoi.
L'Europe sociale passait par le oui.
Oui, tout à fait. Comme l'Europe... La limitation des dégâts du néolibéralisme passe par l'OMC. C'est à peu près le même genre d'argumentation. C'est-à-dire, c'est effectivement, il y a un certain nombre de socialistes, d'ailleurs, qui défendent l'idée que l'Organisation mondiale du commerce, c'est une organisation qui va permettre d'harmoniser, de limiter les dégâts d'une concurrence absolument sauvage. Je dirais que c'est un discours qui est relativement connu. Alors, je crois que ça, c'est la grande force. C'est là qu'il y a peut-être une réflexion à avoir sur qu'est-ce qui a fait gagner un certain nombre de batailles au néolibéralisme. Et je crois que l'une des grandes forces, c'est justement ce travail idéologique qui a été ce formatage des esprits, c'est-à-dire qui a été d'arriver à convaincre un certain nombre de gens, y compris un certain nombre de gens qui s'annoncent de gauche, comme quoi il n'y a pas d'autre solution possible. On l'a entendu tout à l'heure avec Renault. Enfin, j'ai noté en passant là les deux trois citations de Renault, et c'est effectivement très très intéressant et très inquiétant de voir que des gens comme Renault disent ça en disant finalement c'est inéluctable. C'est-à-dire qu'on a effectivement fait passer dans la tête des gens, et ça c'est une construction qui est ancienne et qui date des années 60, 70, où on a effectivement fait passer dans la tête des gens le fait que bon, il y a des lois en physique, il y a la loi de Newton, il y a des lois inéluctables, et il y a des lois de l'économie qui sont inéluctables. Et je crois que le point central, c'est ça. Alors c'est vrai qu'il y a eu à un certain moment des dérives dans la campagne, qui étaient inévitables parce que beaucoup de spécialistes. Enfin, je pense qu'on peut au passage les travaux de l'efficacité du travail de quelqu'un comme Génard de l'URFIG, qui a effectivement fait un travail énorme pour arriver à décortiquer, à sortir la logique du traité, à montrer que la logique du traité était la même que la logique de Bolkestein, que la directive Bolkestein, que la logique du traité était exactement la même que la logique des traités qui sont signés, en particulier de l'accord général sur le commerce des services qui est signé à l'OMC. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes termes, on retrouve les mêmes mots, et donc la même démarche qui est effectivement la libre concurrence comme moteur de, comme générateur de société. C'est-à-dire, bon, pour caricaturer, bon, c'est toutes les salades sur la fin de l'histoire. Bon, la messe est dite, le communisme est mort. Bon, il est mort. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'une seule alternative, c'est effectivement le néolibéralisme. Et ça, c'est vraiment un travail purement idéologique. Et je crois qu'on a gagné une bataille. Enfin, je ne crois pas à la fin de l'histoire. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on ait gagné la guerre. Mais je pense qu'on a effectivement gagné une bataille. Et peut-être, si on revient en arrière sur le conflit des retraites. Bon, c'est vrai que le conflit des retraites en France a été vécu, à juste titre, enfin, la fin du conflit sur les retraites, a été vécu comme une défaite des salariés, qui est une réelle défaite sur le court terme. Et je ne suis pas sûr que sur le long terme, le travail qui a été fait au moment des retraites, et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'ampleur des manifestations. Enfin, ce qui a été frappant, c'est que pendant les manifestations sur les retraites, on a vu passer une dimension où les gens prenaient en main, en se disaient, mais finalement, c'est pas uniquement un problème local, c'est un problème global, et si on ne s'approprie pas le niveau global, on n'y arrivera jamais. C'est-à-dire, si on reste toujours au niveau de c'est la faute à Raffarin, et puis au-dessus, on n'essaie pas de savoir ce qui se passe, en fait, on n'y arrivera jamais. Et je crois que les conflits sur les retraites ont été effectivement une défaite à court terme, c'est incontestable. Mais sur le long terme, il y a eu un travail de prise, il y a eu une prise de conscience de tout le monde dans la rue, dans les manifs, c'était extrêmement frappant sur le fait qu'il y avait toute une logique générale qui prenait les retraites, la santé, EDF, la libéralisation des services publics, la suppression des... Tout ça, c'est pas un hasard. C'est quelque chose de tout à fait global. Et si on s'attaque pas à ce niveau global, on aura beaucoup de mal à avancer parce qu'on aura toujours les attitudes des gouvernants qui disent « c'est pas moi, c'est la faute à Bruxelles, c'est pas moi, je peux pas faire autrement », etc. Enfin, je voudrais pas citer des discours des années 2002 d'un ancien Premier ministre quand il est revenu de Barcelone, mais c'était quand même... Ça expliquait aussi beaucoup de choses. Et là, je pense qu'une partie de la gauche n'a absolument pas fait l'analyse du 27 avril 2002.
Alors, on va continuer à se promener dans ce qu'on a pu entendre à la radio le dimanche soir, au résultat des élections. Et vous voyez, on va entendre un extrait, il y a vraiment une ambiance du tonnerre rue de Solferino.
Comment est l'ambiance rue de Solferino?
Écoutez, on attend François Hollande d'une minute à l'autre, hein, mais en tout cas, Geneviève, c'est sûr que c'est probablement une des pires soirées vécues par le PS depuis 10 ans, après le 21 avril et la déflagration présidentielle. Eh bien, voici le séisme, on peut l'appeler comme ça, du référendum européen. Si les chiffres se confirment, 54-55, c'est évidemment, vous le disiez, hein, un désaveu total de François Hollande et surtout de la ligne choisie majoritairement par les militants socialistes le 1er décembre dernier. Un score qui ce soir est sans ambiguïté. Pendant 2 heures, Hollande et son équipe, entourés de DSK, Jack Lang, Martine Aubry se sont réunis au premier étage. Ils ont cherché des solutions, cherché les mots également. Hollande peut-il se contenter simplement dans quelques minutes d'annoncer un congrès à l'automne, un congrès de clarification qui de toute façon est inévitable? Alors évidemment, il y a un grand perdant ce soir, c'est le numéro 1 du PS. Un grand vainqueur, tout le monde parle de lui,
le
sans vraiment...
2.
Voilà, Laurent Fabius, muet comme une carpe d'ailleurs. Il sait, Fabius, ce soir, qu'à ce niveau de score, il est quasiment intouchable dans le parti. À l'instant, d'ailleurs, il s'est passé quelque chose qui est très révélateur du climat ici, hein, Geneviève. Henri Emmanuelli était sur l'un des plateaux de télévision et il vient d'être sifflé par les gens qui étaient dans la cour et qui sont dans la cour autour de ce buffet froid avec une ambiance un peu lugubre. En tout cas, ils ont retrouvé de la chaleur pour siffler Henri Emmanuelli. Ces sifflets qui disent bien, au fond, ce soir, Geneviève, que ce parti est désarticulé, qu'il est groggy, qu'il essaie d'analyser ce qui s'est passé dans les urnes aujourd'hui. Rejet d'une partie de la gauche, rejet du gouvernement qui portait le oui. En tout cas, un PS qui semble à contre-courant de son électorat traditionnel.
François Hollande, retourne dans ton pays. François Hollande, retourne dans ton pays.
Oui, donc pour ceux qui ont envie, il paraît 500 kilos de gambas rue de Solferino. Alors on va reprendre la discussion. Donc vous disiez Bon, le mouvement des retraites a été un échec, mais il a servi de point d'entrée pour ce mouvement aussi contre la Constitution. Alors, j'aurais envie de vous demander, à Cédric ou à Pascal, concrètement, quel a été le lien donc avec les autres mouvements sociaux, à la fois celui des retraites, mais aussi plus tardivement celui de 2 mars, qui était aussi l'entrée en scène du nom sur le plan médiatique. Donc, quel a été le lien entre ces mouvements sociaux externes, enfin qu'on pourrait dire un peu externes, et la campagne sur le nom?
Oui, ce qui est frappant cette année, ce début de l'année 2005, c'est qu'il y a une très grande disponibilité pour les luttes. On le voit avec les succès des mobilisations enseignantes, qui ont été, il y a seulement eu 3 jours de grève, mais 3 jours de grève qui ont été très suivis. À chaque fois, les confédérations n'ont pas réappelé un jour suivant, etc. Mais les journées ont été massivement suivies. Il y a eu la mobilisation des lycéens, qui est une mobilisation absolument très importante. Bon, on voit l'actualité de la répression aujourd'hui, mais c'est une mobilisation qui était très importante, jusqu'à plus de 100 000 lycéens, presque 200 000 lycéens dans la rue la même jour, donc c'est un mouvement vraiment d'ensemble. Et puis on a vu le 10 mars, qui est une mobilisation très très forte aussi, très très forte, interprofessionnelle avec beaucoup de gens du privé, etc. Et qui n'a pas été reprise non plus par les directions syndicales. Donc en fait, il y a eu une espèce, le champ syndical, que ce soit la CGT, la CFDT, etc., a fait une espèce de trêve pendant le référendum et a refusé de jouer sur le rapport de force favorable qui était là. Mais par contre, les salariés, ils avaient enclenché le processus de mobilisation. Les discussions étaient déjà en cours. Les choses se discutaient et le lien a pu être fait sur cette base de forte contestation sociale, de forte frustration aussi sur le niveau de vie, la question du niveau de vie, quand on a vu les profits records des entreprises du CAC 40, etc. Lorsqu'on parlait qu'il était nécessaire de se mettre davantage en concurrence, de serrer davantage la ceinture sur les services publics, comme c'est expliqué dans le cadre du traité constitutionnel, et qu'en même temps, les portes de la contestation directe dans la rue étaient bloquées par les structures syndicales, et qu'en même temps, les entreprises faisaient des profits records, il y avait un espèce de cocktail explosif qui a permis aussi de dynamiser la campagne. L'entrée en mobilisation des salariés a été un facteur important pour permettre à cette campagne de décoller et aussi pour permettre à la force militante qui s'est retrouvée dans les comités locaux d'exister. Du coup, les salariés engagés dans ces luttes-là ont rapidement pu enchaîner avec les comités locaux et étaient disponibles pour écouter également toutes les réunions d'information qui étaient faites.
Oui, et Pascal, puisque tu voulais réagir, je voudrais aussi te demander, est-ce que dans les assemblées que tu as pu suivre, dans les discussions que tu as pu suivre, est-ce que donc ces questions concrètes de l'activité sociale des gens, de l'activité de travail, étaient mises en lien, étaient apportées par les gens qui assistaient aux assemblées, mises en lien donc avec la Constitution européenne?
Bien, oui, en effet, on nous a servi comme quoi il fallait déconnecter la politique gouvernementale et cette Constitution et... Bien, je dirais, ça n'a pas marché, hein, tout simplement. C'est que les gens sont quand même pas si idiots que ça. Malgré un texte qui est complètement hermétique, les gens se rendent bien compte qu'il y a des liens. Et puis, plus nous avancions aussi dans la compréhension du texte, plus ces liens se révélaient, quoi. Et ça, c'était flagrant. Et je pense qu'il y a aussi, sur une analyse plus de fond, c'est qu'il y a une construction européenne qui s'est faite sans les peuples. Et manque de bol pour ceux qui l'ont construite, c'est que le peuple aujourd'hui, il a frappé très fort à la porte et il a dit « cette construction, elle nous appartient tout simplement. Et nous, on veut y participer. Nous, cette Europe que vous êtes en train de nous bricoler, c'est pas de ce type d'Europe dont on veut. » Nous, je pense que le débat xénophobe d'il y a 10 ans est un peu parti. D'ailleurs, je crois, si ma mémoire est bonne, M. Chirac ne voulait pas de l'Espagne par rapport aux maraîchers, aux fruits et légumes. Enfin bon, c'est notre Chirac habituel, hein, selon comment souffle le vent, il tourne. Et là-dessus, je crois qu'en fin de compte, c'est réellement les citoyens qui sont rentrés là, qui ont... Dans l'arène et qu'on dit cette affaire, elle nous concerne. Elle nous concerne en tout premier lieu. Et ces spécialistes, ces gens, ces baratineurs. D'ailleurs, la plupart des gens ont pu se rendre compte que ceux qui prenaient Louis, ils avaient un mal de chien à parler réellement du texte. C'était blablabla, on fait de la rhétorique sur des supposés. Mais quand, je dirais, on les assigne sur le texte et mot à mot, ça pose beaucoup de difficultés. Et bien, je crois que les citoyens s'en sont tout à fait rendus compte. Et moi, je crois que là, il s'est passé un véritable réveil démocratique. Et là-dessus, c'est très heureux pour la bonne santé de la démocratie. enfin, ce n'est pas qu'un discours de spécialiste. C'est monsieur et madame tout le monde qui s'y est penché. Évidemment que nous, dans nos réunions publiques, eh bien, on avait besoin aussi de gens plus pointus pour nous expliquer ce que ça voulait dire. Parce qu'on n'a pas tous fait droit, on n'est pas tous docteurs en économie. Mais il y a assez de signes qui nous montraient justement que de ne pas vouloir répondre à des articles, des choses comme ça, eh bien, encore une fois, on nous cachait entre guillemets quelque chose. Et là, on ne leur a pas demandé leur avis. On s'est dans le texte, on s'est après jeté dans la bataille pour informer les gens. Et dans différentes circonstances, je me suis rendu compte, dans des débats troqués, que les gens étaient très assoiffés de comprendre de quoi il était question et à quoi ils allaient s'engager. Et alors, de présenter ce texte comme étant un texte neutre, constitutionnel, on tombe par terre. C'est un vrai programme politique, je dirais, que je qualifierais de quasiment obsessionnel, de réglementation obsessionnelle. De découvrir que je devais voter oui pour la fermeture du laminoir numéro 2 en pays tchèque, je me dis, mais qu'est-ce que ça vient foutre dans une constitution, ce genre de choses? Et là, on a voulu nous... ils n'ont pas eu de chance.
Jacques.
Oui, il y a un texte de Bertolt Brecht, là, qui est donc un auteur de pièces de théâtre et de poèmes allemands qui a beaucoup circulé pendant la campagne, qui s'appelle La Solution, alors qui est un texte qui a été écrit après les révoltes populaires à Berlin-Est en 1953. Et donc je crois que c'est assez intéressant de le voir parce qu'on peut comparer effectivement certains aspects du traité constitutionnel avec la constitution de 1936 proposée par Staline pour l'Union soviétique. C'est à peu près de la même logique. Alors le texte de Brecht, c'était « Le peuple, par sa faute, a perdu la confiance du gouvernement. Il lui faudra beaucoup d'efforts pour la regagner. Et n'aurait-il pas été plus simple pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre ?» Je pense que c'est tout à fait ce qui s'est passé.
Voilà, 22h, c'est le nom et le nom très largement.
Le président de la République a nommé M. Jean-Pierre Raffarin Premier ministre.
Quand je dis la route est droite, la pente est forte, on dit voilà, c'est une formule. Mais souvent, la formule, c'est une conviction qui sort chez moi des profondeurs de mes propres convictions.
On sait que la vie est difficile, on sait que la vie finit mal.
Il faut rétablir l'autorité républicaine et faire preuve d'une grande fermeté.
Je pense que les choses ne sont pas faciles. Je pense que la France n'est pas en bon état. Et je crois qu'il faudra beaucoup de détermination.
La positive attitude, c'est de faire face, d'assumer. Et quand ça va mal, de surmonter. Donc c'est ça, cette constance. Et je pense qu'il faut avoir la positive attitude. Le destin humain. On sait qu'il faut surmonter ce destin. Donc la positive attitude, c'est une question presque de philosophie. C'est de regarder droit devant. J'adore chanter et je chante très très peu. Surtout, tais-toi. Et la bonne méthode de travail chez moi, c'est écouter d'abord. C'est entendre, être attentif.
Les syndicats dont on parle aujourd'hui, ils sont d'accord pour l'union du non, mais ils ne sont pas d'accord pour une union du oui. Ils ont une négative attitude, ils n'ont pas une positive. Ils n'ont pas une positive proposition.
Mais moi je suis déterminé.
On n'a pas le droit d'être désespéré.
Mon souci aujourd'hui c'est d'être positif, je ne me retourne pas.
L'océan, c'est un espace de vie, c'est un espace qu'il faut protéger, c'est la planète des poissons.
Il faudra du courage, mais je suis déterminé, je crois que la France a les moyens de surmonter la situation qui est la sienne.
L'autorité, vous savez, on la trouve dans l'action, dans les méthodes de travail et dans la détermination et la ténacité.
La positive attitude, c'est de surmonter. Mais un gouvernement, ça discute, et puis un Premier ministre, ça décide. Au dépend même des coups que je peux prendre.
Allez, on vous le sert une dernière fois. C'était un mix de Jérémy sur la positive attitude de Raffarin. Voilà, on a changé de Premier ministre. Il va falloir qu'on refasse tout l'habillage antenne. C'est une véritable catastrophe pour nous. Cédric.
Oui, donc on va revenir donc toujours sur les raisons de ce succès et en l'expliquant autrement que par l'incompétence des gens. On voudrait donc revenir sur la manière dont ça s'est organisé encore cette campagne pour le non, parce que certes l'enjeu était important, mais en Espagne on voit bien aussi que l'enjeu n'a pas pris, il n'y a pas eu beaucoup de débats, alors qu'en France tout ça a été construit localement. Donc est-ce que vous pourriez revenir très concrètement sur comment ça s'est organisé, comment vous avez parvenu à intéresser les gens à un niveau local et peut-être aussi, si vous avez un peu de temps, revenir un petit peu sur le rôle du PC qui n'a certainement pas été secondaire dans cette histoire-là.
Alors, qui commence? Cédric?
Oui. Le premier truc, ça a été évoqué déjà. C'est l'arrière-fond idéologique des luttes intermondialisation qui fait qu'il y avait une disponibilité et des compétences sur les thématiques. D'autre côté, une série de mobilisations sociales à répétition depuis 1995 qui faisait que donc il y avait de ces deux côtés-là quelque chose qui devait se rencontrer à un moment et qui a pu se rencontrer dans le cadre de cette campagne. La deuxième chose, c'est le cadre qui a été proposé par l'appel des 200 dès l'automne et qui a permis de régler très facilement où c'est que ça allait se passer cette campagne du non de gauche. Et tout le monde s'est retrouvé dedans, toutes les forces politiques, toutes les forces associatives. On n'a pas eu la coupure, par exemple, entre le mouvement social et forces politiques.
Et une bonne partie des forces syndicales.
Et une bonne partie des forces syndicales, notamment solidaires, etc. Et une série de structures CGT, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Et ces forces ont pu se retrouver donc de manière évidente. Et le fait que toutes ces forces se retrouvent de manière évidente a suscité en soi une dynamique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont disponibles pour faire pour lutter, pour faire de la politique, pour faire des luttes sociales, mais qui, face à une offre très diverse, face à une explosion des cadres, ont du mal à s'y retrouver. Là, on nous disait, vous êtes tous ensemble, c'est là qu'on veut travailler, c'est là qu'on veut faire des choses. Et je pense que cet aspect, un lieu pour se rassembler, qui s'impose de manière facile, a été quelque chose de très important. Et puis le dernier élément, c'est que la campagne du oui démarrant, les choses n'étant pas évidentes, les interrogations ont augmenté très rapidement. Et beaucoup de gens se sont décidés dans les trois dernières semaines, le dernier mois, et ont rejoint les comités pour y a des gens qui ont fait des réunions avec le oui et avec le non avant de se décider. Et puis finalement, ont suivi les réunions avec le non et sont retrouvés dans le cadre du non. Pour donner quelques exemples sur les dernières semaines, un exemple à Clermont-Ferrand. Moi, je suis originaire de Clermont-Ferrand et j'ai un peu suivi de loin la campagne là-bas, mais il y avait des choses intéressantes puisque la campagne du non a plutôt bien marché. Ça s'est terminé avec un meeting très fort où il y avait tout le monde, des gens du PC, des gens de la Ligue, des gens de Solidaire, etc., des gens des comités locaux, etc. Plus de 2000 personnes, une partie des cadres de la mairie qui étaient là, machin. Donc plus de 2000 personnes, la salle était comble, ils ont dû mettre des haut-parleurs dehors, enfin des choses qui ne se sont jamais vues. Des choses qui ne sont jamais vues. La même semaine, il y avait deux meetings pour le oui. Il y en avait un qui était organisé à l'université avec Jack Lang. Il y avait 20 personnes, dont 20 personnes pour le non. Et un autre qui était organisé dans la grande halle, le Zénith. Donc c'est quelque chose que vient de construire Giscard, le Zénith de Clermont-Ferrand, une grande salle pour des milliers de personnes de concerts. Il y avait 154 personnes. La salle était vide. Donc il y avait au bout d'un moment, le oui, on l'avait à la télé. Le oui, on l'avait dans les éditos. Le oui, il était là. Il n'y avait pas besoin de s'interroger davantage. Par contre, le non, si on voulait y aller, il fallait dans les comités. Si on voulait avoir l'information, il fallait se déplacer. Et les interrogations allant croissantes, les gens se sont mobilisés. Peut-être juste pour finir, un truc sur le rôle du PC et des forces politiques d'une façon générale. Le PC a une attitude très, très offensive et très unitaire dans cette campagne, en ouvrant notamment son meeting du Zénith à l'ensemble de la gauche, puis à beaucoup de mouvements sociaux. Et il a pu mettre sa logistique au service de la campagne. Et ça a été
Il a partagé ses temps de parole dans les médias officiels.
Voilà. Donc ça a été un signe aussi important. Ça a été un signe important pour l'ensemble des partenaires qui étaient là, qu'au moins sur cette campagne, il pouvait y avoir un cadre de confiance. Il y en a un qui faisait un pas, et les partenaires ont joué le jeu, que ce soit Mélenchon, que ce soit la Ligue, que ce soit les partenaires syndicaux, se sont retrouvés et ont accepté de jouer le jeu dans ce cadre-là. Et on a vu une très belle campagne où ça faisait du bien d'être ensemble, c'est ce qui ressortait aussi souvent, quoi. Ça faisait du bien non seulement pour les gens qui n'étaient pas militants, mais pour les militants. On est content d'être ensemble, on est content de lutter ensemble.
Oui, je crois qu'il faut, quand même avoir conscience qu'il y a une crise européenne qui est... La crise européenne, c'est pas la crise du non, c'est pas le refus du traité constitutionnel. C'est-à-dire qu'il y a une crise latente depuis longtemps. Alors pourquoi, comment, quel est l'événement déclenchant qui fait qu'une crise, effectivement, peut déboucher sur... je dirais une victoire partielle ou un échec, c'est évidemment compliqué. Mais la crise européenne, il faut quand même voir que quand on interroge l'ensemble des populations européennes sur quelle est leur préoccupation principale, les deux préoccupations principales qui ressortent, c'est le chômage et l'exclusion sociale. Vous pouvez lire les 448 articles du traité constitutionnel européen, du projet de traité constitutionnel européen, vous ne verrez pas le mot de chômage et vous ne verrez pas le terme réel, ou quasiment pas, de terme d'exclusion sociale. Quand on demande aux citoyens européens est-ce que l'Union européenne a un rôle positif dans le domaine du chômage, 25% des personnes interrogées répond oui, c'est-à-dire que 75% répond non ou ne se prononce pas. Et je crois que là, on a affaire, bon, je peux donner un autre chiffre sur la crise de légitimité qui pose, je pense, un gros problème politique de démocratie, parce que je dirais, nos démocraties sont quand même fondées sur l'existence des partis, entre autres, parmi les institutions politiques figurent les partis. Et dans les sondages de l'Union européenne, c'est des sondages qui sont impulsés par la Commission européenne, on pose la question aux gens de dire, bon, est-ce que vous faites confiance à telle ou telle institution ? Et la réponse est favorable, c'est-à-dire font confiance aux partis 17% des personnes interrogées sur l'ensemble de l'Union européenne et 13% en France. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement ? 34% sur l'ensemble de l'Union européenne, 29% en France. C'est-à-dire qu'on a effectivement un problème majeur qui est actuellement, et là qui sera peut-être la question à poser pour la suite, qui est le désintérêt complet des institutions politiques traditionnelles. Donc, après, comment on peut rebondir dessus ? C'est évidemment une autre question.
Alors, moi, je voulais juste, vous répondrez, Pascal, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que si cette campagne a pu gagner en lisibilité, c'est que le nom de droite, ou en tout cas, surtout le nom d'extrême droite, a été relativement discret, et que, à la différence de la campagne de Maastricht, qui avait complètement été polluée par la présence des souverainistes, du Front National, tout ça. Là, il y avait une plus grande lisibilité de cette campagne, de l'affirmation que c'était un non pour des raisons sociales. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez vu ça, vous aussi?
Je dirais, le terrain des grands médias, il était complètement occupé par le oui. Et nous, le seul terrain qui nous restait, c'était la rue. C'était d'interpeller les gens dans la rue, c'était de discuter avec eux. Et en effet, le don de l'extrême droite, moi, je l'ai pas vu, quoi, dans la rue. Par contre, qu'est-ce qu'ont vu les habitants ? Eh ben, ils nous voyaient. Même à la fin, des fois, c'était... on se disait bonjour, on commençait presque à nouer des relations de quartier, quoi. Et ça, je crois que ça a été notre grande force. Et ce n'était que... Il ne nous restait plus que ça, en fin de compte. Sauf que j'ai un peu l'impression, c'est que ceux qui ont prôné le oui à outrance, là, et ils n'ont pas compris que ben, les gens, c'est aussi de discuter avec... des gens un peu engagés dans la vie politique et que c'est comme ça que ça gérait notre cause a triomphé et c'était pas que notre cause c'était leur cause. Vous êtes concernés au même titre que nous, c'est parce qu'on distribue des tracts que ça ne vous concerne pas. Et je crois que là-dessus il y a eu un très bon retour. Et il y a beaucoup de gens qui nous disaient vous avez raison, même si eux-mêmes ne participaient pas dans un groupe, un milieu associatif ou politique. Ils nous soutenaient. Et puis, je pense aussi, c'est que quand on propose un traité, comme le disait Giscard, qui est gravé dans le marbre, où les gens en ont pris, plein la tête depuis des années et des années, et qu'on leur dit... Ce que vous avez pris pendant des années, on va le pérenniser pendant des générations et des générations. Non, mais c'est je dirais, c'est à se suicider. Alors, eh bien non, c'est qu'en fin de compte, il y a un vrai sursaut de vie, un vrai sursaut démocratique, et les gens n'ont pas du tout été courbés les chines, pleurés, être des moutons. Eh bien, nous ne sommes pas des moutons. Et celui qui nous a parlé de moutons noirs, eh bien, il va peut-être pouvoir commencer à prendre sa calculatrice pour savoir combien il y a de moutons noirs dans l'affaire.
Mes chers compatriotes, au cours de ce débat, vous avez également exprimé vos inquiétudes et vos attentes. J'entends y répondre en donnant une impulsion nouvelle et forte à l'action gouvernementale. Je vous ferai part dans les tout prochains jours de mes décisions concernant le gouvernement et les priorités de son action.
Alors, effectivement, on a été entendu puisqu'on a Sarkozy comme ministre de l'Intérieur, De Villepin comme Premier ministre. Par contre, on n'a plus Raffarin et lui, là, Chirac, on l'a encore.
Alors, puisqu'on est dans les priorités de l'action, donc vous avez eu des réunions dans vos comités apparemment depuis dimanche. Et donc, quelle est la température donc dans les comités de base et comment est-ce qu'on voit la suite dans vos comités?
Je crois qu'il y a une volonté de la plupart des gens qui auront participé à la campagne de vouloir effectivement continuer. Alors je dirais qu'il y a un premier piège dans, il y a un premier piège dans lequel effectivement, et l'affaire Sarkozy-De Villepin en est un exemple du côté de la droite, mais je crains qu'on en ait quelques exemples similaires du côté de la gauche. Enfin, l'un des pièges dans lequel il faut évidemment pas tomber, c'est le piège d'une ingénierie politique franco-française immédiate. C'est-à-dire que mais là, j'exprime une opinion qui est pas forcément, je dirais qui est forcément une opinion personnelle, je dirais, et puis qui est un peu à chaud puisque le référendum date quand même d'il y a deux jours. C'est premier point, c'est de garder le terrain au niveau international. Bon, ça c'est un point qui est absolument central. C'est-à-dire qu'on a effectivement gagné une bataille sur le vote sur le référendum. Le 16 et le 17 juin se réunissent à Bruxelles les chefs d'État et de gouvernement pour le sommet de l'Union européenne. Donc le 16 et le 17 juin, c'est une échéance immédiate, c'est-à-dire qu'il va falloir effectivement arriver à faire passer le message, et je pense que ça peut être mobilisateur, que le chef de gouvernement français et le président de la République française ne peuvent pas ignorer, quand ils iront à Bruxelles le 16 juin, qu'il y a eu une expression démocratique, populaire. Et donc, la première chose qui va être faite, et qui je pense va être soutenue par beaucoup de collectifs, c'est de demander à nos responsables politiques de mettre sur la table un certain nombre de réformes immédiates, indépendamment des réflexions qu'on peut avoir sur le long terme, sur faut-il ou ne faut-il pas une constitution, etc. Et l'annulation des directives de libéralisation, Bolkestein, le droit du travail, la durée du travail, la directive sur les transports, etc. De reprendre complètement les négociations de l'Union européenne au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc ça, c'est quelque chose d'immédiat. Alors, localement, enfin au niveau franco-français, je pense qu'on va avoir une lutte assez âpre à avoir très rapidement, qui est une lutte sur le terrain des médias. C'est-à-dire actuellement, quand on écoute la télévision, les médias officiels, on a l'impression d'entendre des analyses médico-sociologiques sur qu'est-ce qui a fait voter ces moutons noirs. C'est-à-dire qu'on est en train de pathologiser le vote des Français en disant qu'est-ce qui leur est arrivé. Et là, je pense qu'il faut être extrêmement ferme, de dire que ce n'est pas du tout une maladie qui a pris une espèce d'épidémie là, dans un troupeau de moutons. C'est effectivement une expression démocratique, populaire, qui s'est exprimée et il faut la respecter.
Oui, à mon avis, il y a trois conséquences, trois perspectives essentielles. La première a été dite, c'est une perspective européenne, surtout ne pas s'enfermer au niveau franco-français. On a des réseaux qui sont liés au forum socio-européen, à toutes ces choses-là. Il faut les mobiliser et discuter aujourd'hui de quel avenir pour la construction européenne et sur quelle base de reconstruire. Et ça, il faut le faire à l'échelle européenne et avancer à l'échelle européenne. C'est la première chose. Et deux autres choses, très rapidement. D'un côté, ne pas faire confiance. On voit bien ce que vient de faire Chirac avec sa blague Sarkozy-De Villepin. Donc c'est des luttes sociales qui, dès maintenant, doivent être encouragées par ce résultat au référendum et qui doivent marquer qu'on ne va pas attendre 2007. C'est maintenant que les choses vont se jouer. C'est maintenant qu'il faut avancer. Et la troisième chose, c'est ne pas dilapider l'énergie formidable des comités locaux. Ne pas tout de suite chercher une solution politique institutionnelle rapide, mais au contraire, essayer de construire la base d'une alternative politique sur la base de la mobilisation unitaire très large qui a eu lieu et de la force militante formidable qui a été mobilisée dans le cadre de ces comités locaux.
Pascal, très court, deux mots.
Bien oui, je pense que convoquer d'autres peuples européens, leur faire profiter aussi de notre travail, et puis justement quelle Europe sociale et quel type de texte qui conviendrait. Et ben après tout on a notre temps pour réfléchir et puis on va continuer de travailler. Il y a beaucoup de gens qui ont été intéressés, ben pourquoi pas avancer sur ces chemins-là.
Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour cette analyse à chaud. On a essayé un petit peu de comprendre quelles ont été les dynamiques de cette victoire. On leur a quand même mis 55%, faut se le rappeler. Et alors, faut se rappeler aussi que ce nom pose quelques questions. Par exemple, Lionel Jospin va-t-il se retirer définitivement de la vie politique? Le nom va-t-il remettre en cause les chances de Paris d'obtenir les JO en 2012? C'est vraiment, j'espère. On voudrait savoir aussi quand on va nous faire revoter le même texte. Moi, il y a un truc qui me taraude, je voudrais savoir si Fabius a repris deux fois des carottes râpées le soir du référendum. Le nouveau gouvernement va-t-il enfin mettre en place une politique sociale en augmentant les pour les CRS? Et puis, question fondamentale, en cas d'insurrection, sera-ce de Villepin ou Sarkozy qui donnera l'ordre de tirer sur la foule? Et puis alors vraiment, question subsidiaire qui me paraît fondamentale, c'est que je voudrais qu'on m'explique comment, alors qu'on ne l'avait pas vu venir, comment FPP, seule radio de la bande FM parisienne quasiment, seule contre toute, a pu avoir une telle influence dans l'opinion publique française, puisque nous seuls, face à RTL, Europe 1, Radio France, nous avons fait plier l'opinion publique. Voilà, on vous remercie d'être venu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Oreilles loin du front et vous abandonne dans les bras d'Écho du Capricorne.